Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie. Aujourd'hui, Paris est baigné de soleil et de lumière, et cela tombe bien, car notre émission de ce jour, dans notre émission de ce jour, il sera justement question de lumière. Il sera même plus précisément question de photographie. Nous en avons en effet la joie et l'honneur de recevoir Lucien Clergue. Lucien Clergue, vous êtes invité ici pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous êtes ici chez vous, étant membre de l'Académie des Beaux-Arts. La seconde, c'est que nous fêtons cette année plusieurs anniversaires. D'abord, le 175e anniversaire de la naissance officielle de la photographie, proclamée ici même sous la coupole. Ensuite, le 45e anniversaire des rencontres d'Arles, qui sont devenus l'un des grands rendez-vous à l'échelle mondiale de cette discipline. Et enfin, votre 80e anniversaire, Lucien Clergue, vous qui êtes le créateur des rencontres d'Arles, et aussi et surtout le premier photographe élu sous la coupole à l'occasion de la création de cette nouvelle section de photographie. Je vous propose donc dans cette émission, au-delà des rencontres d'Arles qui en constituent le sujet, de remettre, comme c'est la vocation de Canal Académie, tout cela en perspective afin de réfléchir ensemble au destin qui a été celui de la photographie à travers cette épopée qu'ont été les rencontres d'Arles et la reconnaissance officielle de cet art par votre élection à l'Académie des Beaux-Arts. Ma première question, c'est lorsque vous contemplez le chemin parcouru depuis la création des rencontres d'Arles, quels sont les sentiments qui vous étreignent ?
Un peu d'affolement parce que j'ai maintenant une énorme famille. Voilà. Où que j'aille dans le monde, il y a un mois de la photo, une exposition, un festival de photographie. Donc tout ça, c'est des enfants et petits-enfants qui essaiment dans le monde et j'en suis quand même très fier. N'oublions pas que très vite, en 1975, un continent entier, l'Amérique du Sud, a pu trouver son identité photographique grâce aux rencontres d'Arles et que ça a été un événement capital. C'est une de nos grandes récompenses. Mais il y en a tous les jours de nouvelles, donc on se réjouit sans cesse.
Vous avez évoqué le caractère familial, j'ai compris que c'était une forme de parabole du festival, car c'est aussi une entreprise de grande ampleur. Toutefois, ça a bien commencé sous le sceau de l'amitié, si je ne me trompe pas, et en mobilisant certains de vos photographes, que vous êtes photographe ami, d'ores et déjà, c'est en ouvrant vos propres carnets d'adresses que tout cela est né.
Oui, bien sûr, il se trouve que moi j'ai une passion pour la photographie depuis toujours, et en fait, je campais quand j'avais 17 ans à Avignon pour assister au Festival Avignon. Et très vite, m'est venue l'idée de faire la même chose à Arles. Alors, je ne savais pas quoi encore, mais quand il y a eu les événements de 68 et qu'il y a eu des bouleversements, le maire nous a un peu poussé à mettre le pied dans la meule. Et comme je suis photographe, j'ai dit pourquoi on ne mettait pas une ou deux expositions de photographie et une rencontre entre photographes, grâce à Michel Tournier qui faisait une émission sur la photographie. Il a amené trois photographes avec lui, les a interviewés devant le public. Ça a été un véritable triomphe. Il y avait un besoin. La photographie était cachée et nous avons mis subitement le photographe sur la scène et on l'a identifié et reconnu. Il y avait cette terrible règle établie par Cartier-Bresson, surtout qu'on ne nous photographie pas, qu'on ne nous reconnaisse pas, qu'on ne nous identifie pas. Et ben, ça a changé avec ce « nous » et maintenant on les connaît.
Parce que le modèle des rencontres d'Arles, c'est précisément qu'il s'agit, si je comprends bien, de rencontres et pas seulement d'expositions.
Absolument. C'est là que certains photographes en rencontrent d'autres, évidemment. Mais ma plus belle récompense a été un jour Marc Ribou qui m'a dit « Tu vois, Lucien, qu'est-ce que c'est notre métier ? C'est d'être dans le hall d'aéroport à regarder le type à côté en se disant il va partir avant moi, il va choper des meilleures photos que moi. Donc on est en concurrence. On est à Arles, on est sur la place du Forum, on boit un pastis, on discute de notre métier, dégagé de toute idée de concurrence, c'est le bonheur.
Et c'est aussi une rencontre avec le public, parce que de fait, les gens qui pouvaient admirer des photographies jusqu'ici, non seulement ne connaissaient pas le visage de ceux qui les faisaient, mais c'était des êtres généralement privés de parole.
Pratiquement, exactement. Mais vous savez, nous faisons le soir des soirées au Théâtre Antique, où on peut mettre jusqu'à 2000 personnes. 2000 personnes qui voient défiler des photos sur un grand écran. En présence, en général, de leurs auteurs. Croyez-moi, c'est impressionnant. Ça, c'est la chose, la marque d'Arles, parce qu'en plus, ben, c'est un lieu magique, historique, et d'autant plus que Arles est aussi historique par elle-même, puisque parmi les premières photos de Baldus et de Nègre, ce sont évidemment les arènes d'Arles, le cloître d'Arles, le cloître de Montrachour, etc. Donc, Arles est vraiment inscrite dans l'histoire de la photographie. J'ajoute que si vous considérez effectivement, lorsque vous parlez du 45e anniversaire, que c'est plus du quart de l'histoire de la photographie.
Je n'y ai pas pensé.
Exactement. Ça n'a l'air de rien, mais c'est. Voilà.
Dans cette déjà longue histoire des rencontres, j'imagine qu'il y a eu des moments heureux, d'autres plus périlleux. On a annoncé à plusieurs reprises que les rencontres étaient menacées. Où en sommes-nous aujourd'hui ?
Aujourd'hui, nous sommes à un tournant intéressant. Le directeur qui, pendant 12 ans, a assumé les responsabilités, a demandé à être libéré. Les élections ont été faites. Le nouveau directeur nommé. Donc, à partir de septembre, nous aurons une nouvelle direction. Et nous verrons ce qu'il fera.
Le succès public considérable, des milliers de visiteurs chaque année pour finalement une discipline qui est à la fois grand public et pointue. Les rencontres peuvent certes séduire un vaste public, mais elles sont aussi l'objet de débats qui intéressent les passionnés et les professionnels. Ce vaste succès, finalement peut-être inespéré au départ, ne protège-t-il pas définitivement les rencontres ?
Vous savez, on n'est jamais à l'abri de rien. Il peut toujours y avoir une catastrophe. Mais c'est vrai que nous bénéficions de ce prestige d'avoir été les premiers, il faut bien le reconnaître, et qu'on on a bien entretenu la chose. Et que François Hébel, puisqu'il faut l'appeler par son nom, qui a donné sa démission au bout de 12 ans, a complètement transformé les rencontres et les a établies. Quand vous vous rendez compte tout de même que le budget annuel des rencontres l'année dernière était de 6 millions d'euros et que nous avons frisé les 100 000 visiteurs, c'est tout de même considérable. C'est un peu impressionnant. Alors, j'espère de tout cœur que son successeur, Sam Sturze, pourra faire pareil.
Revenons à cette édition, la 45e. Il est bien sûr totalement impossible d'évoquer l'ensemble des expositions et des rencontres qui vont le jeûner. C'est un événement foisonnant qui s'étend sur l'été presque entier. En revanche, sur quels événements voulez-vous mettre le focus ?
Eh bien, nous avons, pour la première fois, je suis arrivé à convaincre le chancelier de l'Institut de bien vouloir accepter que des photographies de la collection permanente de la maison sortent et soient présentées en Arles, c'est-à-dire hors de Paris. Vous savez, les gens ne savent pas qu'il y a 17 000 photographies dans l'Institut. Bon, dans divers lieux, puisque nous avons divers lieux à Lyon.
C'est enfin, un fonds très important.
Il y en a 17 000. Bon, la responsabilité, c'est la bibliothèque de l'Institut. Mais il n'y a pas de véritable conservateur de la photographie qui ferait en sorte qu'elle puisse circuler, ces photographies. C'est pour ça que cette collection n'est pas connue. Et j'espère que cette exposition en Arles va déclencher quelque chose. et que par la suite, on pourra mieux voir. Parce que l'exposition présentée sur les débuts de la photographie, essentiellement les années 1850, dont en particulier Maxime Ducamp, sont de purs chefs-d'œuvre. Enfin, c'est des choses bouleversantes. Et on les présente à Arles, dans le musée d'archéologie, le musée de l'art antique. Donc, c'est dans la lignée complète, et je pense que ça va beaucoup impressionner le public.
Oui, qui était Maxime Ducamp ?
Maxime Ducamp était un personnage assez complexe. On sait que c'était le grand ami de Gustave Flaubert, qu'il a beaucoup influencé. Il a même empêché de publier son fameux livre sur la tentation de Saint-Antoine. Donc c'était une intimité, et ils voyageaient vraiment ensemble. Et Maxime Ducamp a fait un travail tellement considérable qu'il faut savoir que les archives de Maxime Ducamp sont dans la maison, sont ici. Je crois à l'Académie française, enfin, mais c'est à l'Institut. Donc, personnage considérable et qui a marqué l'histoire de la photographie, justement, par ce voyage en Égypte, notamment en Orient, et avec cette complicité de Gustave Flaubert.
Et le second personnage clé présenté dans cette exposition est américain, je crois.
Voilà, ce Green, qui vient un peu après Maxime Ducamp, et qui fait aussi de très très belles choses. Je pense qu'il y aura aussi des choses de photographes moins connus, mais qui ont fait de très très beaux de reportages magnifiques sur cette époque qui est mythique pour beaucoup de photographes.
Alors en observant les clichés de Ducamp et ceux de Green, qui sont superbes, on regrette de ne pas être à la télévision, mais seulement à la radio quand on évoque ce type de sujet, mais ils sont réellement superbes et j'invite les auditeurs à aller les découvrir en Arles. On est placé au cœur, non pas des contradictions, mais de l'essence même de la photographie. Ces gens sont envoyés en Égypte pour des raisons documentaires, de façon à ce que des scientifiques ensuite puissent consulter ces documents sans avoir à se déplacer eux-mêmes en Égypte. Ils sont d'ailleurs, je crois, au départ mandatés par l'Académie des sciences, si je ne me trompe pas. Et ils reviennent avec des clichés qui sont des œuvres d'art. Est-ce qu'on n'est pas là, justement, au cœur des tensions qui ont agité notre perception de la photographie ?
Non, écoutez, c'est à peu tout merveilleux parce que, en effet, des images qui se voulaient être purement scientifiques deviennent au fil du temps des œuvres d'art. Eh bien, pourquoi pas ? C'est magnifique. Et aussi, ça veut dire que c'est cette promiscuité, cette conjonction. Pour certains de vos auditeurs, ils ne savent peut-être pas que l'Institut abrite 5 académies. Et qu'effectivement, l'Académie des sciences que vous venez de mentionner était la référence. N'oublions pas que nous avons dans les collections ici des œuvres de Talbot, d'anglais, qui sont uniques au monde, que tout le monde nous envie, car ce sont les premières épreuves qu'il était venu apporter ici, avec son collègue Hippolyte Bayard, pour avoir la caution de l'Académie des sciences, qui disait c'est bien, c'est pas bien, etc. Et tout ça est resté chez nous, dans nos archives. Et personne ne les voit, ce qui est très dommage. C'était très important, ça. Et quand le membre de l'Académie qui annonçait la naissance de la photographie, pardonnez-moi son nom, tout d'un coup.
Arago, non ?
Arago. Quand Arago est allé voir le Premier ministre pour lui dire qu'il allait faire ça, il lui a dit surtout, faites-le devant l'Académie des sciences, mais qu'on invite les membres de l'Académie des beaux-arts. Voilà.
Donc c'est joli, je l'ignorais.
Oui, c'était important, car en fait, il y a eu une bagarre, si vous voulez. C'est que, théoriquement, les véritables inventeurs de la photographie moderne sur papier, c'était Talbot et Hippolyte Bayard. Leur procédé était beaucoup plus rapide et facile, le collodion humide. Alors que le procédé français qui a été déclaré l'invention de la photographie, c'est Daguerre et Niépce, Et donc, ces daguerréotypes qui étaient lourds sur métal, il fallait incliner, etc. Et pour en faire plusieurs, c'était extrêmement compliqué. Mais Arago, qui était un politique, il ne faut pas l'oublier, il était député, c'était un jeune politique, vous savez, on entrait à l'Académie à 29 ans à cette époque-là. Donc, et il est allé convaincre Thiers de filer à l'Assemblée et de décréter une pension pour Daguerre et le fils de Niepce et dire c'est la France qui a inventé la photographie. Et ça veut dire que les membres de l'Académie des Beaux-Arts, qui étaient des artistes, bon, ils étaient un peu... ils avaient le temps, quoi. Alors que les scientifiques, eux, c'était des gens, comme toujours d'ailleurs aujourd'hui, ils sont très rapides et très actifs. Et donc, ils ont marché dans le coup. Et voilà, c'est parti.
Et aujourd'hui encore, c'est bon, bien sûr, c'est cette confrontation et cette fusion, ces échanges est conforme à la vocation de l'Institut. Aujourd'hui encore, la photographie et ses nouveaux procédés est au cœur d'échanges entre l'Académie des sciences, celle des Beaux-Arts. Est-ce qu'il y a une réflexion sur le numérique, son irruption, ses conséquences, une réflexion commune ou pas menée sur ces sujets?
Je vais vous avouer ma tristesse, c'est qu'en effet, nous ne nous rencontrons pas assez dans cette grande maison. Nous avons chacun une journée. Chaque académie a sa journée. Ce qui fait que, voilà, c'est la journée de l'Académie des Beaux-Arts, bon, très bien. Et puis le lendemain, c'est des sciences, et c'est eux, c'est pas nous. On repart chez nous et on ne se voit pas. On n'a pas de repas où on pourrait être ensemble. On n'a pas de... C'est assez compliqué. Alors on essaie justement pour ce 175e anniversaire de faire quelque chose avec l'Académie des sciences et la nôtre. J'espère qu'on va y aboutir.
Et vous, à titre personnel, l'irruption de ces nouvelles techniques qui donnent un nouveau tour à la photographie, notamment qui lui donne une vitesse d'exécution totalement presque effroyable, que cela vous inspire-t-il comme réflexion?
Moi, je trouve que ça fait partie du progrès, ça fait partie des choses qui avancent. Mon âge fait que je n'y ai pas touché, parce que mon ordinateur, mon cerveau est tellement plein que je n'ai pas envie d'y ajouter autre chose. C'est vrai que ça simplifie la vie, mais que c'est encombrant. C'est-à-dire qu'on avale des images par quantité et qu'après, là, c'est dans ce truc, il faut choisir, etc. Moi, je suis toujours fidèle à mon rouleau de 36 poses avec la progression qu'il suppose. C'est souvent la numéro 36 qui est la meilleure dans le rouleau. Alors, ça donne une discipline, ça donne un but, c'est intéressant. Alors que je vois les autres, et surtout, ce qui m'exaspère, c'est tous ces gens avec leur téléphone brandi devant eux pour faire tout, quoi. Et on photographie n'importe quoi. Et j'avoue que j'ai une espèce d'indigestion de voir ça, surtout que j'habite une ville touristique. Et alors, les hordes de Japonais avec leurs appareils brandis comme ça, ça c'est un côté prédateur qui me dérange parce que que voit-il? C'est pour dire j'y étais. Voilà. Mais en fait, il ne voit pas le monument, il le photographie pour pouvoir dire en temps j'étais là. Bon, pourquoi pas? Je veux dire, c'est l'évolution de notre temps. Il paraît qu'on revient un peu vers l'argentique, que des jeunes se mettent en quatre pour trouver de vieux appareils, de vieux techniques. Mais on nous supprime peu à peu les moyens de nous en servir. Par exemple, dans le domaine de la couleur, nous avions un papier magnifique qui s'appelait Cibachrome au début, puis Ilfochrome. C'est fini. On a arrêté la fabrication. On est paralysé. C'était un papier absolument magnifique, qui traduisait la couleur et le relief, une espèce de profondeur qu'on n'a pas dans les papiers actuels à jet d'encre. Alors tout ça évoluera, c'est évident. Il y aura quelqu'un qui trouvera le truc pour arriver à faire ce qu'on faisait avant. Et mais tant mieux pour les autres, tant mieux pour les jeunes.
Nous avons évoqué en introduction votre propre anniversaire. J'imagine qu'il sera célébré lors des rencontres d'Arles. Ce serait bien le moins. De quelle façon?
Bah, écoutez, il va y avoir plusieurs expositions, notamment d'abord la première sera au musée Réattu, qui est le musée local où j'ai aidé mon ami Jean-Maurice Rouquette, qui était à l'époque le directeur de ce musée dans les années 50, à constituer une collection de photographies. Nous avons ainsi des œuvres exceptionnelles d'Edward Weston, uniques en Europe, je crois, 35, je crois qu'il y a 35 œuvres, dont une série de vintage exceptionnelles qui valent une fortune chacun. Ça vaut plus cher qu'un dessin de Picasso. Et la conservatrice nouvellement élue a décidé de faire une exposition qui s'appellera Les Clergues d'Arles, c'est-à-dire tout ce que j'ai offert au musée depuis sa création, à peu près 360 œuvres. Elle va faire une exposition de ça, plus une donation que je vais faire cette année. Donc, c'est pour moi très émouvant parce qu'elle appelle ça Les Clergues d'Arles, comme s'appelait l'exposition Picasso, Les Picasso d'Arles. Alors, j'avoue, j'en suis très ému. Et le musée Réattu est pour moi un musée important où j'ai eu le choc de ma vie avec l'exposition Van Gogh dans les années 50. Donc, voilà, je vais me retrouver un peu chez moi. Alors ensuite, quelques jours plus tard, pour la grande ouverture des rencontres, le 7 juillet, François Hebel m'a fait une très belle surprise. C'est-à-dire que dans la grande halle, il tire un mur de 100 mètres sur lequel il va mettre une sélection de 60 ans de photographies. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il a choisi, mais j'en ai vu passer, là, comme ça. Et ce sera émouvant pour moi de voir ça là aussi, dans les ateliers, dans un lieu alors, tout à fait différent, commenté par moi-même, puisqu'il m'a fait une interview. Pendant deux jours, il m'a posé des questions inlassablement. Et donc, en entendant ma voix, qui guidera le visiteur. Ensuite, il y a l'École nationale supérieure de photographie qui accepte de montrer dans l'auditorium qu'il possède quelques-uns de mes courts-métrages que j'avais réalisés dans les années 60. Car, en fait, je voulais me destiner à la carrière cinématographique. Et j'hésitais beaucoup, je faisais un peu les deux. Et je n'ai pas eu de chance, ou peut-être de la chance. C'est quelque chose qu'il faut pouvoir vérifier. En 1968, j'ai été sélectionné avec un court-métrage au Festival de Cannes. Mon producteur m'appelle au beau milieu du festival pour me dire « J'ai vu les membres du jury, c'est nous qui allons avoir la Palme d'Or. Alors tenez-vous prêts, très bien. » Et là-dessus est tombée la fameuse révolution culturelle, avec le drapeau brandi par Polanski, qui est membre de l'Académie désormais, avec Claude Berry, avec Godard, avec toute la bande de Truffaut. Bon, il n'y a pas eu de Grand Prix, il n'y a pas eu de Palme d'Or, il n'y a rien eu. Et mon producteur avait dans la poche le contrat pour un premier long métrage. Ça l'a découragé, et moi aussi. Et je dois dire que dans la foulée, j'avais reçu une commande de Hollywood pour faire un film sur Picasso, que j'ai entrepris, qui m'a pris 3 ans. Et j'ai eu là un contact avec des producteurs américains tellement farfelus que je me suis dit, si c'est ça le monde du cinéma, je préfère retourner à la photographie.
J'imagine qu'aujourd'hui, vous ne le regrettez pas.
Eh bien, on a posé la question il y a quelque temps à Polanski, quand on faisait un film sur moi. Oh, il a dit, on a peut-être perdu cinéaste, mais on a gagné un grand photographe. Alors, on ne regrette pas.
Et pour l'avenir de la photographie, les commémorations ne sont pas des points finales. Comment l'envisagez-vous?
Alors, d'abord, on n'a pas cité la quatrième exposition.
Ah, il y en a une quatrième, excusez-moi, vous voyez, voilà. J'avais tort. De...
Non, mais la quatrième exposition me touche beaucoup parce que c'est mon ami Moati qui dirige le théâtre de la Calade qui est venu chez moi et en fouillant m'a dit « Mais tu as les photos de théâtre là, formidables, il faut les montrer. » En effet, comme je l'ai dit, je campais à la Barthelas à Avignon, on campait avec Gérard Philippe, hein, qui campait aussi sous la tente. Enfin, c'était extraordinaire. Et Jean Villard avait une espèce d'aura, de puissance, là. Vous savez, on était quand même pas peu de temps après la guerre. Et donc, j'ai fait beaucoup de photographies, notamment de gens qui sont devenus célèbres ensuite, comme Noiret, par exemple. Il y avait Cazares, Alain Cuny, tous ces gens qui ont marqué le théâtre pendant tant d'années. Et il y a eu à Arles, en 1954, pour la célébration du bimillénaire de la cité, Jules César, monté par Jean Renoir, avec d'ailleurs dans les figurants, figurez-vous que dans les figurants, il y avait toute la bande qui a mis le feu aux poudres en 68. Il y avait Godard, Truffaut, toute la bande qui était déguisée, qui faisait figurant, parce qu'il n'y avait plus de place. Et quand ils sont arrivés, Renoir leur a dit « Écoutez, mettez une toge et vous me cadrerez un peu les figurants ». Et c'était sensationnel. Et j'ai passé trois semaines de répétition. Toutes les nuits, j'ai failli en crever d'ailleurs, parce que je ne dormais pas assez, je travaillais dans la journée à l'usine. Et donc, on verra ces photos. Voilà, c'est pour moi très émouvant, cette exposition des tout débuts.
Alors, comme je le disais, il n'y a pas de point final, l'aventure continue. Quels sont pour vous les enjeux majeurs pour la photographie dans les années et les décennies à venir ?
C'est un problème très complexe, parce que la photographie a été récupérée finalement par les peintres. On le voit, nous, quand on juge ici, dans la maison, puisque nous sommes responsables aussi de la Casa de Velázquez, Académie de France à Madrid, et qu'on juge les travaux des élèves, il y a finalement un peu de confusion, parce que dans ce qu'on appelle désormais les plasticiens, on n'ose plus les appeler peintres, ils utilisent beaucoup la photographie. D'ailleurs, j'ai vu, il y a quelques jours, à Arles, chez moi, l'inauguration d'une exposition de Arroyo, le peintre espagnol, et c'est quoi ? C'est des collages faits avec des photographies qu'il a récupérées au marché aux puces. Donc, il y a une utilisation comme ça, faite par les plasticiens, qui, je pense, détourne beaucoup et pose des questions. Parce que l'essentiel de la photo, son mystère, est un peu perdu. Voilà. Parce que c'est appliqué d'une façon parfois très anarchique et pas toujours facile à identifier. Mais cette profondeur qu'il y avait dans les œuvres de ceux qui nous ont précédés, on la retrouve difficilement.
C'est vrai que c'est à la marge, la photographie devient une sorte de matériau pour des œuvres d'un nouveau type, c'est cela ?
Probablement. Encore une fois, il faut s'y faire. Il y a des photographes comme les Allemands, les Becher, les fameux Becher, qui ont photographié des châteaux d'eau en Allemagne, des usines par rangée de 3, 6, 9. Pourquoi pas, je veux dire. Et quand on voit Gursky qui photographie des étalages de Monoprix ou la rivière Rhin agrandie de 4 mètres. Et là, on s'aperçoit d'un phénomène. Les photos de Gursky, par exemple, tirées à 4 mètres. Très bien, magnifique. Et puis on a fait une exposition de ces photos tirées normalement à 50-60 cm. Ça perdait beaucoup d'intérêt, étrangement. Donc, il y a là une question aussi de présentation. Voilà, alors ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espoir pour le futur et qu'il va s'en passer des choses.
Merci beaucoup, Lucien Clerc. J'invite donc nos auditeurs à se rendre à la 45e édition des Rencontres d'Arles pour découvrir non seulement les introspectives de votre propre œuvre, mais également la génération montante et toutes les autres expositions et les débats. N'oublions pas, car il s'agit de rencontres, et bien entendu, l'ensemble des renseignements pratiques figureront sur notre site internet. Encore oui. Merci, Lucien Clergue. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, non, effectivement, il y a un colloque très important sur la photographie, auquel je dois participer d'ailleurs, évidemment. Et c'est vrai que c'est une rencontre à un moment crucial, et j'espère en effet qu'elle va passionner le public. Merci.
Merci à vous. Thank you.